Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la seconde et dernière émission du mois d'octobre, puisque le mois d'octobre touche déjà à sa fin. Et pour l'adibé avec moi ce soir, alors exceptionnellement, on est simplement deux personnes dans le studio, mais bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, et on a suffisamment de sujets pour tenir l'heure sans problème.
On va même peut-être essayer de rendre l'antenne quand même à l'heure aussi.
C'est ça. Mais voilà. Donc avec moi ce soir, il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Voilà. Donc on va beaucoup parler d'atteinte aux libertés ce soir, hein, d'atteinte aux libertés chez nous, d'atteinte au droit de manifester, à la liberté sur les réseaux numériques et les atteintes, enfin, etc. Tout ce qui touche effectivement aux libertés dans le monde numérique, comme je disais. On va peut-être parler, si on a le temps, des atteintes aussi aux libertés en Russie. Et puis, restez à l'écoute avec nous, puisque de toute façon, on est là ensemble pour parler des droits humains et de la promotion et de la défense des droits humains jusqu'à 19h, comme on le fait sur l'antenne de Principe Actif deux fois par mois. Donc pour commencer l'émission ce soir, on voulait vous parler tout de suite d'une pétition. Une pétition qui est très importante parce qu'en fait, à la clé, il y a la grève de la faim de trois personnes à Calais, donc c'est chez nous en France. Et il y a trois personnes qui se sont mises en grève de la faim pour protester contre l'atteinte aux droits des migrants et des réfugiés à Calais, mais pas seulement à Calais. Donc je vous lis le texte de la pétition qui a été lui-même contresigné par Amnesty International hier. Donc voilà. Suite au drame de la mort de Yasser, alors petite parenthèse, Yasser c'est un jeune migrant, je crois d'origine érythréenne, je crois, qui a été écrasé par un camion dans lequel il voulait monter en partant, parce qu'il voulait franchir le Channel pour aller jusqu'en Grande-Bretagne, il était accidentellement écrasé par le camion. Donc suite au drame de la mort de Yasser, c'était un Soudanais, la semaine dernière, face à la constante dégradation des conditions de vie des personnes exilées à Calais, alors que le harcèlement dont elles font l'objet est quotidien et que la violence exercée par l'État est toujours plus forte, Philippe, Anaïs et Ludovic ont entamé une grève de la faim depuis le lundi 11 octobre à l'église Saint-Pierre de Calais. Depuis plusieurs années, des associatifs, des militants et des personnes exilées alertent sur la situation inhumaine qui s'inscrit dans le Calaisis. Nous assistons quotidiennement à des formes de violence psychologique et physique à l'encontre des personnes exilées. Expulsion toutes les 48 heures, voire quotidienne. Confiscation et destruction des effets personnels. Multiplication des arrêtés anti-distribution de nourriture et d'eau. Humiliation. Coups et blessures de la part des forces de l'ordre. Et l'escalade de la violence ne s'arrête pas. Il y a deux semaines, des nouvelles mesures ont été mises en place. À quatre reprises, l'État a posé des rochers sur un lieu de distribution de Coquelles, c'est une ville, ou un quartier de Calais, je ne sais pas, empêchant tout accès aux associations pour distribuer des denrées de première nécessité aux personnes exilées. Les interdictions se sont multipliées ensuite sur l'ensemble des lieux de vie des personnes, rendant illégale toute distribution. Depuis les années 90, cette politique de non-accueil a entraîné plus de 300 décès. La semaine dernière encore, Yasser est mort écrasé par un camion. Il voulait rejoindre son rêve, l'Angleterre, avec l'espoir d'une vie meilleure. Face à ce constat alarmant, l'État a été interpellé sans qu'aucune réponse satisfaisante n'ait été apportée. Aucun dialogue n'étant possible, trois Calaisiens ont décidé d'entamer une grève de la faim qui prendra effet le lundi 11 octobre à Calais pour attente. Alors la suspension des expulsions quotidiennes et des démantèlements des campements durant la trêve hivernale. Durant cette même période, arrêt de la confiscation des tentes et des effets personnels des personnes exilées. Ouverture d'un dialogue citoyen raisonné entre autorités publiques et associations non mandatées par l'État, portant sur l'ouverture et la localisation des points de distribution de tous les biens nécessaires au maintien de la santé des personnes exilées. Les consciences humaines s'habituent à tout, même à l'intolérable. Cette grève de la faim vise à réveiller les intelligences et à faire entendre à nouveau le caractère scandaleux et proprement inimaginable, dans un pays comme la France en 2021, de la condition à laquelle sont réduits volontairement les personnes exilées par la puissance publique. Donc pour signer cette pétition, vous allez non pas sur le site d'Amnesty, mais sur le site de change.org, donc www.change.org, et vous tapez, parce que le nom de la pétition est assez long, mais vous tapez simplement sur le moteur de recherche sur la première page, grève de la faim Calais, et vous tombez directement sur le texte de la pétition. Donc surtout, il faut signer cette pétition. Il y a 3 personnes donc qui sont actuellement en grève de la faim, donc avec des risques pour leur propre santé, bien évidemment, surtout que ça fait déjà plus de 10 jours. Et pour une dernière information, une militante du Secours catholique a interpellé aujourd'hui M. Emmanuel Macron, qui était en visite dans je ne sais plus quelle ville par rapport à cette grève de la faim. Et il a dit qu'il n'était pas au courant lui-même que des personnes étaient en grève de la faim pour ce motif, mais qu'il allait s'en occuper dès qu'il rentrait à Paris aujourd'hui. Donc voilà, on va le prendre au mot, M. Macron. Ne laissez pas la situation des migrants et des exilés se détériorer de cette façon-là avec toutes les atteintes aux droits fondamentaux que ça représente. Et répondez favorablement aux 3 requêtes du collectif là-bas et des personnes qui font la grève de la faim à ce propos. Voilà. On vous en reparlera de cette pétition à la fin de l'émission quand même, puisque c'est très important de se mobiliser en ce moment pour eux. Je crois que Claire Lys, tu avais des informations locales aussi sur la situation oui. des migrants et des réfugiés.
Et donc vous savez, je suis membre d'Amnesty, mais je suis aussi membre du CFED Asti d'Evreux, qui est un collectif qui aide les personnes migrantes dans leur démarche pour l'égalité des droits, en tout cas, et pour que leurs droits soient respectés. Et on fait partie, avec Amnesty d'ailleurs, du collectif Solidarité Migrants, puisque l'union fait la force, et on a décidé de se réunir en collectif pour justement avoir un petit peu plus de force quand on demande à être entendu auprès de la préfecture. Donc le collectif Solidarité Migrants, il est composé à ce jour de 9 associations du département, donc ANDA de Pont-Audemer, la CIMAD de Gaillon, l'ADEME de Vernon, la pastorale de migrants qui est sur le département, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le CFED Asti d'Evreux, il y a le réseau d'éducation sans frontières, donc RESF 27, et il y a l'association Un toit sous la main qui a été créée, qui est une émanation un petit peu du travail, entre autres, de RESF et du CFED face à la situation de personnes migrantes qui se retrouvent en situation irrégulière parce que elles n'arrivent pas à obtenir l'asile ou elles n'arrivent pas à obtenir des titres de séjour. Il faut savoir que de plus en plus, on est confronté à des situations qui sont vraiment poignantes, qui sont indignes de l'État français et qui... où il y a un manque d'un minimum d'humanité et on envoie à la rue des familles de migrants au motif qu'ils sont dublinés, c'est-à-dire qu'ils sont sous procédure Dublin, qu'ils sont déboutés de leur demande d'asile. Ça représente quand même 75% des demandeurs d'asile en France, hein, ou qu'on leur refuse le droit de séjour sur notre territoire. Donc depuis le 1er février 2017, date à laquelle ce n'est plus l'ARS, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qui instruit les dossiers médicaux des étrangers malades, mais c'est le ministère de l'Intérieur, l'OFI, hein, l'Office français pour l'immigration et l'intégration, et qui fixe les droits au séjour pour les personnes malades. Et depuis le 1er avril 2021, ce n'est plus la directe, donc le ministère du Travail, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre des autorisations de travail pour les personnes étrangères. Donc il devient pratiquement impossible d'obtenir une autorisation de séjour pour raison médicale, ni une autorisation de travail pour les personnes qui étaient soit sous asile, soit qui essayent de se régulariser. Ça devient totalement impossible. Du coup, comme ils ne sont pas régularisés, il y a de plus en plus d'obligations à quitter le territoire français qui sont signées au niveau de la préfecture. Et on se retrouve avec un nombre important de personnes qui se retrouvent à la rue. Et ce sont souvent des femmes, des enfants et des familles entières qui se retrouvent à la rue. Et c'est vraiment...
C'est inacceptable. Donc le contexte politique à l'approche des élections d'avril et de juin 2022 contribue largement à ce rejet massif. Et on sent bien que il y a des, comment dire, des directives qui ont été données aux offices du 115, aux organismes qui habituellement, le CADA par exemple, les CADA qui logent les personnes qui sont sous le droit d'asile, il n'y a aucune possibilité de trouver des solutions pour après. C'est-à-dire que si leur demande d'asile est rejetée, 30 jours après, jour pour jour, qu'ils aient une solution ou pas de solution, ils sont mis à la rue. On vous en avait parlé parce qu'on a été quand même frappé par cette femme qui était enceinte sur le point d'accoucher, oui, qui allait sortir. On vous en avait parlé, tout c'était au mois de mai l'année dernière. Oui. Ça s'est reproduit de plus en plus souvent. Là, la semaine dernière, alors c'était pas un appel à la manifestation qui venait d'Amnesty, mais il y a eu tout un mouvement pour une famille pakistanaise, vous en avez peut-être entendu parler, une mère avec ses quatre filles qui avait été déboutée du droit d'asile, qui était à la rue au printemps, qui a été logée par l'association Un Toit Sous la Main. Alors on avait trouvé des solutions, ils ont été logés dans une caravane et tout, et la préfecture veut quand même les expulser. Donc il y a eu un mouvement de protestation à l'initiative, il faut le relever aussi, des enseignants qui s'occupent, qui sont confrontés en fait à des enfants qui se retrouvent des fois sans logement, qui se retrouvent avec une épée de Damoclès comme on veut les renvoyer. Vous imaginez des filles renvoyées en Afghanistan, ça veut dire qu'elles vont perdre le droit à l'éducation, certaines sont déjà des jeunes filles qui pour là-bas étaient déjà pratiquement risqué d'être marié de force. Et donc, il y a eu un appel à pétition. Et à ce jour, la pétition, elle a atteint, ce que je viens de regarder, 15 286 signatures. Donc, c'est bien. On voudrait atteindre les 25 000 parce qu'il va y avoir une rencontre entre les gens de l'association et notamment d'un toit sous la main une rencontre avec le préfet pour essayer de trouver une solution pour cette famille, parce que ça serait vraiment dramatique si on les renvoyait vraiment en Afghanistan. Il faut dire aussi que ce mouvement, il a été soutenu par Yolande Moreau, dont on connaît l'engagement, qui a refait un film récemment aussi sur la situation des migrants en France, et qui est venue soutenir cette mobilisation du 18. Et on est confronté de plus en plus à plein de familles pour lesquelles il y a des directives qui sont données au 115 ou au centre d'hébergement de ne plus héberger des personnes en situation irrégulière. Donc à partir du moment où ils sont sous le coup d'une QTF, ces gens-là se retrouvent à la rue, et c'est les associations qui essayent de trouver des solutions pour les héberger. Parce que quand même, ce sont des êtres humains. On ne peut pas laisser comme ça des gens sans solution. Et donc, je vous engage à prendre contact, si vous le pouvez, si vous avez la possibilité, soit d'aider, si vous connaissez des gens qui auraient des propriétés ou des maisons grandes qui pourraient héberger du monde, à prendre contact avec l'association Un Toit Sous la Main. Donc, le site, l'adresse mail, c'est Un Toit TOIT, sous la main SLM, alors tout est attaché, @laposte.net. Voilà. Donc, parce qu'on est submergé de demandes, et c'est vraiment une situation qui est très, 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 très préoccupante et qui est indigne d'un pays comme la France.
Tout à fait. Et c'est sûr qu'on a toutes les raisons de penser qu'il y a des directives officielles qui sont envoyées dans les différents départements pour accélérer les expulsions, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, enfin, etc. Parce que la période électorale qui s'annonce, il faut que le gouvernement...
Il y en a qui ont commencé de loin et très, très fort sur le thème des immigrés.
Il faut que le gouvernement en place montre que lui aussi, il est capable d'expulser des gens qui n'ont rien à faire chez nous, comme on dit. Voilà.
C'est la surenchère. Donc... Et c'est la surenchère à l'indignité aussi, je pense.
Tout à fait. Alors juste un petit commentaire qui me vient à l'esprit là, en parlant de ça, c'est que par rapport aux gens qui sont, entre guillemets, qui n'ont rien à faire chez nous, c'est vilains migrants qu'on ne veut pas voir. J'entendais en venant là sur une autre station de radio que l'ONU a publié une remise à jour des rapports pour les changements climatiques, et que donc on s'oriente, si ça continue comme ça, vers un réchauffement d'au moins 2 degrés, 2 degrés 5, voire 3 degrés Celsius dans les 10 ou 15 ou 20 années qui viennent, et que donc les déplacements de population pour raisons climatiques, les gens qui vont devoir quitter leur pays à cause de la montée des eaux, à cause des famines, à cause des désertifications, à cause, va considérablement augmenter. Donc si on est, entre guillemets, pas capable de recevoir des gens qui demandent simplement à ce qu'on leur tende la main à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fera des dizaines de millions de personnes qui, de toute façon, vont devoir se déplacer dans les années qui viennent? Voilà. C'était une question aux candidats aux prochaines élections présidentielles. Mais enfin, malheureusement, on connaît leur réponse à l'avance.
Juste parce que partie dans mon élan, tu me connais.
Oui,
je pars sans filet. Je me suis laissée emporter. C'est la famille donc, pour laquelle on s'est mobilisé le 18 octobre ne vient pas d'Afghanistan, mais du Pakistan.
Oui.
Voilà, j'ai fait un petit lapsus. C'est le pays d'à côté. Je pense pas que les droits soient peut-être tellement mieux,
non.
Mais voilà, c'est un petit lapsus, donc quand même...
On t'en voudra pas. Par contre, tu peux redonner le site sur lequel on peut signer la pétition? C'est sur le site de Change aussi
C'était sur change.org. Voilà, il y avait un lien. Alors, éventuellement, on peut voir... Je ne sais pas si on peut remettre le lien sur avec la radio.
Oui, on le mettra sur le podcast. On mettra sur le podcast le lien. Et redonne-nous simplement le nom de la famille qu'on défend, parce qu'avec le nom sur Change, on peut retrouver la pétition sans problème.
C'était la famille Saber.
Saber. Donc vous allez sur change.org et dans l'onglet de recherche, vous tapez famille Saber et vous aurez la pétition sans problème.
Plus on est nombreux à signer, ça pourrait avoir du poids face à M. Filippini, le préfet de l'heure.
C'est ça.
Qui n'aime pas donner des régularisations à titre humanitaire, il nous l'a déjà dit.
Voilà,
c'est ça,
Monsieur Filippini. Voilà, donc je crois que tu avais encore un petit mot à dire, tu vas changer de sujet, mais tu voulais parler aussi, je crois, Clarlis, des attaques mondiales contre la liberté d'expression et la pandémie. Tout ça en 3-4 minutes.
Oh, ça va être dur. Alors, tu vas m'arrêter parce que là, c'est un petit peu plus long que ça, je pense. Donc, oui, c'est un rapport, en fait, qui est sorti, qu'Amnesty a écrit, Amnesty International, qui révèle que les attaques menées contre la liberté d'expression pendant la période de pandémie du Covid-19 ont un impact dévastateur sur la capacité des personnes à avoir accès à des informations exactes pour les aider à faire face à la crise sanitaire mondiale. Donc, il y a tout un rapport qui a été établi. Donc, le rapport s'appelle « Paroles muselées et mésinformations ». La liberté d'expression menacée pendant la pandémie de Covid-19 montre que les attaques contre la liberté d'expression ont été sans précédent pendant la pandémie de Covid-19. Ces attaques ont des répercussions dangereuses sur la crise de santé publique. En effet, les attaques contre la liberté d'expression imputables au gouvernement associé au flux de mésinformations n'ont cessé de déferler sur le monde pendant la crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'on a entendu tout et n'importe quoi et son contraire. Les gouvernements et les autorités qui se sont appuyés sur la censure et la sanction tout au long de la crise ont réduit la qualité de l'information parvenant aux citoyens. La pandémie a engendré une situation dangereuse dans laquelle les gouvernements invoquent de nouvelles lois pour bâillonner le journaliste indépendant. Ils attaquent les personnes qui critiquent les réponses des gouvernements sur la pandémie du Covid-19 ou les personnes qui tentent simplement d'en savoir plus. Et donc les voix critiques sont réduites au silence dans de nombreux pays. Alors je ne parle pas là de la France. Il y a eu de la mésinformation, mais on n'a pas quand même réduit, enfin, pas à ce point-là réduit les gens au silence. Mais dans certains pays, les journalistes ont été réduits au silence, et des professionnels de santé, mais ils ont été aussi emprisonnés. De ce fait, des personnes n'ont pas pu accéder aux informations sur le Covid-19, notamment sur comment se protéger, comment protéger leur communauté. On estime à environ 5 millions le nombre de personnes qui ont perdu la vie du fait de la pandémie du Covid-19. Et le manque d'informations a sans doute été un facteur contributif. En Chine, par exemple, le gouvernement s'efforce de contrôler la liberté d'expression, donc des professionnels de santé, des journalistes professionnels et citoyens qui ont tenté de lancer l'alerte sur la situation sanitaire dès décembre 2019 ont été pris pour cible. La raison ? Avoir voulu rendre compte de la propagation de la pandémie. Mon ordinateur va plus vite que moi et a sauté plusieurs pages. Je n'arrive plus à suivre. Bon, voilà. En février 2020, 5511 enquêtes pénales avaient été ouvertes contre des personnes qui avaient publié des informations sur l'épidémie de Covid-19 en Chine. Pour invention et diffusion délibérée d'informations erronées et nuisibles. Et le rapport d'Amnesty expose également le cas inquiétant de la journaliste citoyenne Zhang Zhang, déterminée à exercer pacifiquement son droit à la liberté d'expression et à rendre compte de l'épidémie du Covid-19. Elle s'est rendue à Wuhan en février 2020. Elle est portée disparue dans cette région en mai 2020. Elle est arrêtée par la police et inculpée d'avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. Aujourd'hui, elle est condamnée à 4 ans de prison. Voilà. Et donc, en Russie, c'est pas mieux. En avril 2020, évidemment, la Russie a étendu la législation existante contre les fausses informations. Cette législation prévoit des sanctions pénales pour diffusion publique de fausses informations en connaissance de cause, dans une situation d'urgence. Et si ces modifications ont été présentées comme s'inscrivant dans la réponse des autorités russes à la pandémie du Covid-19, ces mesures resteront en vigueur au-delà de la pandémie. Ça nous fait penser à d'autres mesures qui restent en vigueur.
Voilà, on entend aussi ça chez nous maintenant, effectivement.
Voilà, mais dans de nombreux autres pays, comme la Tanzanie, le Nicaragua, ils ont utilisé le prétexte de la pandémie pour mettre en place des lois répressives qui restreignent le droit à la liberté d'expression et qui font taire les détracteurs. Donc il est clair que les restrictions liées à la liberté d'expression ne sont pas seulement des mesures extraordinaires, circonscrites dans le temps pour faire face à une crise ponctuelle. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'offensive contre les droits humains que l'on voit à l'œuvre dans le monde depuis plusieurs années, et les gouvernements ayant trouvé une nouvelle excuse pour intensifier leur attaque contre la société civile. Voilà. Et il y a une responsabilité aussi des géants du numérique dans toute cette affaire. Le rapport d'Amnesty met en lumière le rôle des entreprises, géants du numérique, qui ont facilité la diffusion rapide de la mésinformation autour de la pandémie du Covid-19. Et en effet, ces plateformes conçues pour amplifier les contenus qui attirent l'attention des utilisateurs ne font pas preuve de la diligence requise afin d'empêcher la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Donc il devient très difficile pour les citoyens de se forger une opinion éclairée et de faire des choix étayés concernant leur santé qui soient fondés sur les meilleurs faits scientifiques disponibles. Or, il y a eu une avalanche de mésinformations qui constitue une grave menace pour les droits à la liberté d'expression et à la santé. Et il est essentiel de disposer d'une diversité de sources, d'avoir la possibilité de contester les informations disponibles et de pouvoir en débattre. Voilà. Donc les restrictions à la liberté d'expression ne doivent pas devenir la norme. Il est urgent que les gouvernements lèvent ces restrictions, garantissent la libre circulation des informations afin de protéger le droit à la santé des populations.
Bien, merci Clarlys pour ce brillant résumé effectivement du dossier d'Amnesty sur la question.
J'ai réussi à ce que mon ordinateur m'obéisse.
C'est bien, en plus. Comme tu parlais juste avant des géants du numérique, je pense qu'il a eu peur ton ordinateur, c'est pour ça qu'il t'a obéi.
Bon,
on fait la première pause musicale et on se retrouve juste après.
On se bat parce qu'on ne sait plus se taire. Pour ne jamais oublier comment inventer, comment faire. On se bat du bout de nos peines perdues. On se trompe, on recommence à la recherche de l'attendu. On se bat pour faire bouger les lignes. Le point d'exclamation, le point en l'air et celui à la ligne. On se bat parce qu'on veut faire chanter la petite voix des méprisés, des premiers de corvée. On se bat. On se bat. On se bat pour grandir sans crainte, sans se soumettre à l'injustice des violents et leurs contraintes, avec le doute de nos vies imparfaites, pour que nos mains puissent se toucher dans le gradin de la fête. On se bagarre pour ne plus avoir peur, pour nous remplir d'impossibles, pour être actrice, pour être acteur, acteur de nos vies, de fracas et de joie, parce que je sais pas comment ça marche. Sans te prendre dans mes bras, je me bats. On se bat pour le droit de choisir, de faire ce pourquoi on est né. On se bat pour croire en l'avenir. On se bat pour oser les virages. On se bat pour la beauté du geste, sans barrière et sans cage. On se bagarre parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est plein à vouloir vivre. Pour des encore, pour des toujours. S'il manque une pièce, à quoi sert le puzzle? Si certains peuvent s'enfuir plus vite, on dit que personne ne court pour tout ça. On se bat. On profite du monde en travaux pour lui poser quelques questions. Tu fais quoi pour les exilés qui viennent s'échouer dans tes filets? À quoi tu joues? À quoi tu penses? À trop cultiver le clivage quand tu enfermes l'esprit critique pour le réduire en esclavage? Et tu fais quoi de tous ces gens qui font que tu tournes encore rond? Les oubliés, précarisés, transformés en chair à canon. Et qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Écoute la détresse de son cri quand tu lui fais une claque dans le dos en lui disant ça, c'est ta vie. Pourquoi tu joues avec la peur? Pourquoi tu veux la distiller? Pour bâillonner le libre arbitre ou pour lui couper son sifflet? Alors on se bat et on lâchera pas. Même si parfois les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles. Alors on se bat et on lâchera pas. Même si souvent les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles. Pour tout ça. On se battra.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission sur les droits humains. Et on vient d'écouter Bernard Herbert Larue, un titre qui s'appelle On se bat. Alors Bernard Herbert Larue, c'est un artiste local, hein, c'est un Rouennais, et il a fait un concert samedi dernier à l'hôtel de ville de Rouen en soutien pour la journée de manifestation qu'on avait organisée pour fêter le 60e anniversaire d'Amnesty International. Donc c'est lui, et le deuxième morceau d'ailleurs de cette émission de ce soir, ce sera aussi un morceau qu'il a composé. Voilà, Bernard Herbert Larue, n'oubliez pas ce nom-là. Pour la suite de l'émission, moi je voulais vous parler d'un dossier, alors que je vais vous résumer parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais c'est un dossier d'Amnesty qui s'appelle « Avec vous, un an de combat pour le droit de manifester en France ». Et ça commence comme ça. Nous avons écrit à Emmanuel Macron, alors nous c'est Amnesty International France bien sûr, nous avons écrit à Emmanuel Macron pour obtenir un rendez-vous afin de lui remettre vos nombreuses signatures et lui soumettre nos recommandations sur la protection du droit de manifester en France. En attendant sa réponse, on fait le point sur un an de campagne pour protéger le droit de manifester. Car cela fait plus d'un an que nous tirons la sonnette d'alarme. Le droit de manifester est menacé. Depuis 2018, ce droit fondamental a été limité par l'instrumentalisation de certaines lois, soit trop vagues, soit contraires au droit international, qui ont permis l'arrestation de milliers de manifestants pacifiques. Face à cela, nous nous sommes mobilisés. Actions en ligne, pétitions, rencontres avec les décideurs politiques, communication aux journalistes, formation des militants, réalisation d'un documentaire. Toutes ces actions ont permis de rendre visible le problème, mais aussi de montrer qu'il existe des solutions pour que la France respecte ses engagements sur le sujet. Mener une enquête, comme celle qui vient d'être faite, prend du temps. Rappelons le contexte. À partir de novembre 2018, les Gilets jaunes manifestent dans différentes villes de France, tous les samedis. Après plusieurs semaines, la question des violences policières commence à entrer dans le débat public, notamment grâce au travail des journalistes et à nos alertes. Cependant, une autre forme d'entrave est moins documentée, les arrestations des manifestants pacifiques. Nous décidons alors de les documenter et nous lançons un appel à témoins pour commencer nos recherches sur le sujet. Résultat, plus d'une centaine de réponses. Nous menons des entretiens avec des dizaines de manifestants pacifiques victimes d'arrestations. Nous demandons également des entretiens avec le ministère de la Justice, l'IGPN. L'IGPN, c'est l'office de contrôle de la police, l'office intérieur de contrôle de la police, le défenseur des droits, le procureur de Paris, des avocats et des magistrats. Tous les éléments recueillis sont corroborés par des dossiers judiciaires, des communiqués officiels ou des statistiques des ministères. Après plusieurs mois de travail, notre enquête, arrêtée pour avoir manifesté, sort enfin. Un rapport riche et dense, nourri d'analyses de lois et de nombreux témoignages qui nous permet de formuler des recommandations concrètes sur les lois et pratiques à modifier pour mettre fin à cette répression des manifestants pacifiques. Notre rapport reçoit une couverture médiatique large et qualitative. Les médias amplifient la portée de notre combat. Le sujet prend de l'ampleur et le problème émerge de plus en plus. Notre enquête s'accompagne d'une série de recommandations précises. Cependant, pour être entendus, nous avons besoin d'être nombreux. Alors, au même moment que notre rapport, nous lançons une pétition manifestant pas criminel. La pétition, elle est d'ailleurs toujours sur le site d'Amnesty. L'objectif de cette pétition est d'accompagner chacune de nos actions par un soutien de taille, vos signatures. Les réussites de nos actions sont collectives. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Les pétitions, au même titre que les manifestations, permettent de montrer que nous sommes nombreux. Marcher dans la rue, ensemble, ou signer un texte collectif permet de montrer que nous ne sommes pas seuls et permet de renforcer le pouvoir de toutes celles et tous ceux qui veulent dénoncer les violations des droits humains. C'est exactement ce qui se passe pour notre campagne. Nos groupes locaux, nos antennes jeunes, se sont engagés avec nous. Mais pas seulement. Des militants à l'étranger ont également porté notre pétition. Chacune de vos signatures donne un écho considérable à nos actions et de plaidoyer notamment. Juste après la publication de notre rapport, donc le rapport qui s'appelle, que je vous le rappelle, je vais retrouver le titre, « Arrêté pour avoir manifesté », donc juste après sa publication, nous l'envoyons aux parlementaires et aux ministères, à toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de prendre les décisions nécessaires pour protéger le droit de manifester. Nous enchaînons les rencontres pour les convaincre d'agir, toujours en leur rappelant que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à demander des changements. Devant ce travail de plaidoyer, cette couverture médiatique et notre mobilisation, il devient de plus en plus difficile pour les élus d'ignorer le problème. En octobre, les députés d'une commission d'enquête sur les pratiques et doctrines de maintien de l'ordre interrogent notre chargée de plaidoyer, Anne-Sophie Saint-Père, sur ces arrestations des manifestants pacifiques que nous dénonçons. Leur rapport d'enquête reprend certaines de nos recommandations. D'autres députés profitent des débats autour de la proposition de loi Sécurité globale pour déposer des amendements qui reprennent nos propositions. Grâce aux nombreuses signatures de pétition, grâce au travail de plaidoyer, nous sommes de plus en plus entendus sur les sujets liés au droit de manifester et au maintien de l'ordre. Notre travail de documentation des atteintes au droit de manifester continue. Suite aux nombreuses arrestations arbitraires des manifestants pacifiques du 12 décembre 2020 à Paris, nous réalisons une nouvelle enquête « Climat d'insécurité totale ». Et nous apercevons que sur 142 arrestations, 124 personnes sont placées en garde à vue. Plus des trois quarts, sur les 142 arrestations, 124 personnes sont placées en garde à vue et plus des trois quarts seront relâchées sans poursuite, faute d'éléments pour le faire. Cette enquête donne la parole aux personnes arrêtées qui ont témoigné de la violence psychologique vécue lors de leur garde à vue. Des violences que l'on ne voit pas, mais pourtant bien réelles. Cette enquête, elle aussi, est envoyée aux députés, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Et là, je voulais vous passer alors un des témoignages, qui sont un témoignage audio, qui sont joints à ce dossier. C'est un témoignage d'une personne qui a été lui-même mis en garde à vue. C'est un jeune de 16 ans et il s'appelle Julien.
Le samedi 12 décembre se tenaient partout en France des manifestations contre la proposition de loi Sécurité globale. À Paris, la police procède à 142 arrestations et place 124 personnes en garde à vue. La plupart sans raison valable. Stress, humiliation, sentiment d'injustice et angoisse, les gardes à vue laissent des traces chez celles et ceux qui les vivent. Nous avons recueilli le témoignage de Julien et avons fait lire son récit par Mathias Ravelot. Julien a 16 ans et il a passé 20 heures en garde à vue sans aucune charge retenue contre lui.
Ce jour-là, j'avais demandé l'autorisation à mon père d'aller manifester. J'y suis allé avec quelques amis. On est arrivé à Châtelet, on s'est fait contrôler une ou deux fois, mais ils n'ont rien trouvé de problématique. On avait à peine commencé à marcher que les policiers chargeaient. policier qui frappe une personne que je connaissais. Un autre m'attrape par les épaules et me tire par l'arrière. Ils me mettent contre le mur, contrôle d'identité. Ils m'ont fait vider mes poches, puis m'asseoir sur un petit rebord de vitrine. Au début, je ne comprends pas trop ce qu'il vient de se passer. Donc je dis pas grand-chose. Je ne réalise pas trop ce qui se passe. Je me fais attacher les mains avec des serflex. On reste une vingtaine de minutes comme ça. Dans le fourgon, je demande ce qui m'est reproché. Ils me disent que j'ai participé à un groupe en vue de commettre un délit, avec la circonstance aggravante d'avoir dissimulé partiellement mon visage. On m'accuse de rébellion, de refus de dispersion après désomnation et d'entrave à une interpellation. On est allé au commissariat du 15e arrondissement. On arrive autour de 18h. On nous coupe les serflex avec un couteau. Je dois vider toutes mes affaires dans un bac et enlever mes lacets de chaussures. Ils coupent aussi le cordon de mon pantalon. Après, ils m'ont emmené dans une salle. J'ai dû me mettre en caleçon. On nous a ensuite placés dans la cellule pour mineurs. On est resté un certain temps. Je ne sais pas combien de temps je n'avais aucun moyen de le savoir. J'étais assez stressé au début. Et puis, je me rendais pas vraiment compte. C'est allé très vite. J'ai vu un officier de police judiciaire qui m'a annoncé mes droits. Il m'a demandé des informations sur mon identité. Après, on est resté en cellule jusqu'à 23h. Puis on a vu un médecin. Ensuite, on retourne en cellule. On essaie de dormir un peu. On était deux dans la cellule. Il y a juste un matelas sur un banc et une couverture. Il y avait une énorme lumière pointée sur nous pendant les 24 heures. Le lendemain, on ne sait pas trop quelle heure il est. Au bout d'un moment, on est venu me chercher et on m'a emmené dans une salle pour prendre des photos de moi. Ils ont pris des photos des signes distinctifs que j'ai, comme mes cicatrices. Ils ont pris mon ADN, mes empreintes et m'ont demandé ma taille. Je ne crois pas qu'ils m'aient demandé si j'étais d'accord. Mon père leur avait dit de contacter notre avocate. Mais moi, j'ai eu une commis d'office. J'ai eu une sorte d'interrogatoire. On m'a demandé ce que je faisais dans la vie, pourquoi j'étais à la manifestation, si je reconnaissais les faits qui m'étaient reprochés. Mais j'ai dit que je n'avais rien fait. Ils ont fouillé mon téléphone avec mon accord. Ça me dérangeait, mais je n'avais rien fait. Je me suis dit que ça irait dans mon sens si j'allais dans leur sens. Mon avocate m'a dit qu'il verrait ça d'un bon œil. Je repars en cellule. Après, ils m'ont dit que mon dossier était envoyé au procureur de la République pour qu'il donne une réponse dans l'après-midi pour savoir si on restait ou pas en garde à vue. Moi, je me dis que depuis la veille, je n'ai pas eu beaucoup de chance, donc je m'attends à être prolongé. Mais vers 15h30, dimanche, je suis relâché, sans charge. J'étais soulagé, content de sortir. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a été arrêté.
Pour défendre le droit de manifester en France, vous pouvez signer notre pétition, vous former grâce à notre kit contre la criminalisation des manifestants et rejoindre le groupe local d'Amnesty, le plus proche de chez vous.
Voilà.
C'est le groupe d'Evreux.
C'est ça. Donc voilà, c'était le petit témoignage effectivement que je voulais vous joindre. Alors pour terminer, juste en résumé sur ce dossier, effectivement, donc la publication de ce rapport et de ce témoignage, c'est une façon pour Amnesty effectivement de travailler et de mettre ces éléments en plein jour. Si on continue effectivement, on a quand même obtenu déjà avec ce travail-là une victoire. On a participé au fait qu'il y a un non-lieu de prononcer contre le syndicaliste Frédéric Vuillaume. On vous en avait parlé avant les vacances d'été, là au mois de mai, au mois de juin, puisqu'il était menacé effectivement de prison, de peine de prison. Et en fait, il a été complètement innocenté. Il n'avait fait lui aussi que exercer son droit à manifester pacifiquement avec les gilets jaunes. Voilà. Après, comme on vous disait, comme vous avez entendu dans le petit audio qu'on vient de vous passer, il y a effectivement tout un kit de travail à destination du public et des militants qui a été mis au point par Amnesty International, avec même effectivement des bandes dessinées pour sensibiliser le public. Et on en arrive effectivement maintenant à la signature de la pétition. Alors, encore une fois, la signature de la pétition, elle est toujours en ligne. Ça s'appelle Manifestants virgule, pas criminel, point d'exclamation. C'est destiné à Monsieur Macron. On a dépassé maintenant les 100 000 signatures. Amnesty International Belgique a également fait signer cette pétition et a obtenu 11 000 signatures. Donc, elle va être remise, effectivement, dépêchez-vous de la signer, puisque je crois qu'elle s'arrête à la fin du mois. Elle va être remise prochainement à l'Élysée. Et donc, la dernière étape pour, effectivement, demander des comptes à la remise en cause du droit de manifester en France, c'est cette lettre demandant une entrevue qui a été faite auprès de M. Macron. Dernière information, vous avez également dans tout ce kit d'action, si on peut dire, sur ce dossier, un documentaire, donc on vous en avait parlé la dernière émission, mais qui s'appelle « Présumé coupable », un documentaire de 52 minutes qui explique bien effectivement les différentes atteintes qu'on a répertoriées et qui est visible gratuitement sur le site d'Amnesty France, www.amnesty.fr. Voilà, ne pas hésiter à le consulter. Voilà, ça me paraissait intéressant de voir concrètement ce à quoi nos actions aboutissent et là où on en est par rapport à ces atteintes aux libertés. Et je crois que Claire-Lise, tu avais tout à fait autre chose à nous dire, quoique ce n'est pas tout à fait autre chose, c'est un appel à l'action aussi pour la liberté des 3 de L.I.Blue. Voilà. C'est quoi ces 3 de L.I.Blue ?
Alors, en mars 2019, 3 adolescents africains, âgés de 15, 16 et 19 ans, ont embarqué à bord d'un canot pneumatique surchargé pour fuir la Libye. Avec 108 personnes, ils ont été secourus par un navire, le L.I.Blue. On a dit à ces rescapés qu'ils allaient être conduits en sécurité en Europe. Mais ils ont vite pris conscience qu'on les ramenait en Libye. Donc le navire a finalement fait demi-tour et a mis le cap sur Malte. Les 3 jeunes ont endossé le rôle d'interprète auprès des personnes secourues en les calmant et en calmant les passagers paniqués. Cependant, lorsque le navire est entré dans les eaux de Malte, territoriale de Malte, l'armée maltaise l'a pris d'assaut et les 3 garçons ont été accusés d'avoir détourné le navire. Conduits dans un commissariat, ils ont été inculpés de plusieurs infractions graves, notamment de charges liées au terrorisme. Donc c'est un appel à écrire à la procureure générale au niveau de l'ambassade de Malte. Alors, Madame la procureure générale, donc en mars 2019, 3 adolescents africains donc, sont embarqués à bord du panneau. C'est ce que je viens de vous raconter. Donc, il faudrait... Est-ce que je trouve la suite ? Ma souris, elle joue des vilains tours. Voilà. Donc, c'est beau la technique. Hein. Pour plus avoir des bruits de papier, mais maintenant, j'ai ma souris qui fait clic.
Non, mais comme tu as critiqué les GAFA, c'est eux qui se vengent et qui bloquent ton ordinateur.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont été accusés d'avoir détourné le navire et ils ont été conduits dans un commissariat où ils ont été inculpés de plusieurs infractions graves, notamment de charges liées au terrorisme. Dans un premier temps, ils ont été incarcérés dans le quartier de haute sécurité de la prison de Corradino, un établissement pénitentiaire pour adultes. Après 8 mois de détention, ils ont été libérés sous caution, mais les charges retenues contre eux n'ont pas été abandonnées. Plus de 2 ans après avoir été incriminés injustement, les 3 de L.I.Blue attendent toujours que la justice soit rendue. Et donc, en tant que membre sympathisant d'Amnesty International, donc on vous demande de faire une lettre donc, à la procureure. Je demande, Madame la procureure, je vous demande, Madame la procureure, d'abandonner les charges retenues contre eux et de classer l'affaire avant le procès. Voilà, alors je voulais quand même vous donner l'adresse et Zéma Souris qui continue à m'embêter.
Non mais si les gens qui nous écoutent veulent participer à l'action, ils peuvent nous envoyer un petit mail à evreux@amnestyfrance.fr et on leur enverra directement le courrier tout fait. Hein, de toute façon,
c'est une version qui est téléchargeable.
Voilà.
Et donc les appels ils sont envoyés à Madame la Procureure Générale, The Palace, VLT 1115, Valletta, Malte, courriel, donc ag@gov.mt.
Voilà.
Voilà. Et il faut envoyer une copie aussi à l'ambassade de Malte, 23 rue d'Artois, 2e étage, 75 008, Paris.
Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous demander cette lettre, hein, toute faite, en nous écrivant à evreux@amnestyfrance.fr. On va passer à la deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
Je te souhaite des mains heureuses, des mélodies curieuses, des caresses dans les creux et du bonheur contagieux. Je te souhaite des erreurs de parcours, des chemins de traverse. Je te souhaite des milliers de détours, des qui tombent et qui renversent. Je te souhaite un phare pour ton bateau, le soupir du repos, le langage des couleurs, le rose qui monte aux joues, le noir de l'humour fou, le bleu des petites peurs. Aux cœurs enrhumés, à vos souhaits, je te souhaite la naïveté des gosses, des ivresses de manège, le bruit des vagues, le silence de la neige. Je te souhaite des chansons qui te ressemblent, avec des mots tendres et percutants, des révoltes, la promesse du printemps. Je te souhaite des terrasses de café, la sortie du tunnel, le ciel de la marelle, des cascades de rires partagés et leur plaisir qui nous rappelle. Aux cœurs enrhumés, à vos souhaits, je te souhaite des échos, des rebonds, des cimes et des sommets, des beautés infatigables. Je te souhaite des pays inventés. Je te souhaite des horizons, des folies pleines de douceur, des révolutions intérieures, des chapeaux bas, des hauts les cœurs. Hauts les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh les cœurs enrhumés, à vos souhaits.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International, pour la troisième et dernière séquence de notre émission. On vient d'entendre à nouveau Bernard Berlarue, comme je vous avais dit au début de l'émission. Toutes les illustrations musicales d'aujourd'hui sont de Bernard Berlarue, puisqu'il nous a fait un magnifique concert à Rouen, samedi dernier, à l'occasion du 60e anniversaire d'Amnesty. Voilà. Donc, je voulais vous parler des atteintes aux libertés aussi. On vous parle beaucoup de liberté, mais c'est important. En Russie, bon, on va être gagné par le temps, donc je vais simplement vous donner le nom de l'article qui est paru sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous avez toute liberté, bien évidemment, pour aller le lire en ligne. Et ça s'appelle « En Russie, une parole libre est-elle encore possible ?» Voilà. Point d'interrogation, bien évidemment. Et bon, on ne vous cache pas que cet article, effectivement, pour l'instant, fait un état des lieux extrêmement inquiétant des atteintes à la liberté de la presse, à la liberté tout court, aux libertés tout court, dans la Russie, de notre ami Monsieur Vladimir Poutine. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Sabine, et j'espère qu'elle nous écoute, parce qu'elle a horreur que je dise notre ami Poutine. Bien évidemment, ce n'est pas du tout notre ami. Voilà. Clarlis, tu avais encore quelques mots à dire, je crois.
Oui, donc c'est un appel pour une autre pétition. C'est dans la suite de ce que je disais tout à l'heure sur la liberté d'expression, etc. Ça reprend aussi. C'est par rapport à la surveillance numérique ciblée. Donc j'espère que mon ordi va pas m'empêcher, parce que depuis tout à l'heure, cette souris-là, elle est trop rapide et elle me joue des vilains tours. Donc, c'est une pétition que vous pouvez signer sur le site jusqu'au 31 décembre 2021. Et pour l'instant, on en est à 32 816 soutiens, mais on voudrait atteindre les 50 000. Donc, les atteintes numériques contre les défenseurs des droits humains, journalistes et membres de la société civile sont en augmentation. Leurs appareils numériques sont piratés. Ils peuvent être espionnés, réduits au silence et intimidés. Les révélations du projet Pegasus en sont un exemple flagrant. Dans certains pays, cela peut être risqué et dangereux de défendre les droits humains et de révéler la vérité. De plus en plus, des gouvernements utilisent des outils de surveillance numérique pour intimider, harceler et arrêter des personnes. Les gouvernements et entreprises disent que ces outils de surveillance ne sont utilisés que pour cibler des criminels et des terroristes. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Le projet Pegasus révèle que des politiques, des journalistes ou encore des défenseurs des droits humains dans le monde entier ont été pris pour cible illégalement au moyen de du logiciel espion Pegasus, mais aussi d'autres. Pourtant, les États à travers le monde continuent de fermer les yeux et d'autoriser la vente et les exportations de technologies de surveillance sophistiquées et intrusives à plusieurs pays. Donc l'exportation de technologies de surveillance à des gouvernements qui utilisent ces outils de manière illégale doit cesser. Et donc nous vous invitons à signer cette pétition qui est sur le site d'Amnesty International et qui s'appelle « Surveillance numérique ciblée, non au Big Brother 2.1 ».
Merci pour ton anglais.
Et je vous rappelle qu'il y a toujours la pétition dont on vous a parlé tout au début pour la famille Saber. Oui. Donc cette femme qui vient du Pakistan avec ses trois filles et qui risque d'être expulsée parce que le préfet de l'heure a pris un avis d'obligation à quitter le territoire français. Et donc on en est à 15 286 soutiens. Et on voudrait atteindre les 25 000 parce qu'il va y avoir une entrevue entre les associations de soutien à cette famille et le préfet, M. Filippini. On se rappelle son nom.
Oui, tout à fait. M. Filippini, préfet de l'heure.
Préfet de l'heure. Voilà. Et parce qu'on voudrait bien quand même que l'avenir de ces jeunes filles ne soit pas des mariages forcés.
Oui. On rappelle quand même, comme vous disiez Clarlis, que si elles sont expulsées vers leur pays d'origine, le Pakistan, elles risquent effectivement des mariages forcés. Donc voilà, double peine, quoi, expulsion, interdiction de rester en France, expulsion et mariage forcé au bout de la route, si on peut dire. Donc c'est tout à fait inadmissible, c'est clair. Une idée qui me vient aussi, enfin un petit conseil, c'est une évidence, mais n'hésitez pas, si vous signez la pétition, à la relayer aussi sur vos pages Facebook, Twitter, Instagram et autres, parce qu'effectivement c'est aussi comme ça que les choses se propagent, les réseaux sociaux, ça ne sert pas qu'aux fake news, ça sert aussi à faire avancer les actions très utiles et fondamentales pour les droits humains. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser aussi dans ce sens-là. On va toucher à la fin de l'émission. Alors, deux choses. On va vous rappeler notre actualité locale. Pour l'instant, c'est une actualité essentiellement radiophonique. On a d'autres projets dans les tiroirs, mais on vous en parlera dans les prochaines émissions. Donc, nos infos locales radiophoniques, c'est notre prochaine émission, émission Amnesty, le mardi 16 novembre, en direct sur l'antenne de Principe Actif, donc de 19h à 20h, mardi 16 novembre, et la reprise de la série d'émissions Fréquences Droits Humains. La prochaine émission aura lieu le 18 novembre, donc deux jours après, le jeudi 18 novembre, en direct de 18h à 19h30, et elle traitera du droit à la contestation et au droit de grève. On vous a parlé beaucoup aujourd'hui de droit de manifester, et bien c'est un peu dans la même idée, et on aura des intervenants effectivement pour parler de ces droits et la remise en cause de ces droits ici chez nous. Voilà. On va vous, effectivement, pour terminer l'émission, on va vous rappeler. Et je vais quand même vous relire ce communiqué parce que ça me paraît important pour la deuxième fois. Et excusez-nous pour la redite, mais pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, qu'actuellement, il y a trois personnes qui sont en grève de la faim à Calais, simplement pour qui réclament auprès des autorités françaises le droit à un respect des droits fondamentaux des personnes en situation de migrants et de réfugiés à Calais. Donc je vous relis le texte de la pétition et on vous encourage largement à aller le signer sur change.org. Donc, suite au drame de la mort de Yasser, jeune Soudanais, la semaine dernière, face à la constante dégradation des conditions de vie des personnes exilées à Calais, alors que le harcèlement dont elles font l'objet est quotidien et que la violence exercée par l'État est toujours plus forte, Philippe, Anaïs et Ludovic ont entamé une grève de la faim depuis lundi 11 octobre à l'église Saint-Pierre de Calais. Depuis plusieurs années, des associatifs, des militants et des personnes exilées alertent sur la situation inhumaine qui s'inscrit dans le Calaisis. Nous assistons quotidiennement à des formes de violence psychologique et physique à l'encontre des personnes exilées. Expulsion toutes les 48 heures, voire quotidienne, confiscation et destruction des effets personnels, multiplication des arrêtés anti-distribution de nourriture et d'eau, humiliation, coups et blessures de la part des forces de l'ordre. Et l'escalade de la violence ne s'arrête pas. Il y a 2 semaines, de nouvelles mesures ont été mises en place. À 4 reprises, l'État a posé des rochers sur un lieu de distribution de coquelles, empêchant tout accès aux associations pour distribuer des denrées de première nécessité aux personnes exilées. Les interdictions se sont multipliées ensuite sur l'ensemble des lieux de vie des personnes, rendant illégale toute distribution. Depuis les années 90, cette politique de non-accueil a entraîné plus de 300 décès. La semaine dernière encore, Yasser est mort écrasé par un camion. Il voulait rejoindre son rêve, l'Angleterre, avec l'espoir d'une vie meilleure. Face à ce constat alarmant, l'État a été interpellé, mais aucune réponse satisfaisante n'a été apportée. Aucun dialogue n'est possible. 3 Calaisiens ont décidé d'entamer une grève de la faim qui prendra effet lundi 11 octobre à Calais, avec pour attente, premièrement, suspension des expulsions quotidiennes et des démantèlements des campements durant la trêve hivernale. Durant cette même période, arrêt de la confiscation des tentes et des effets personnels des personnes exilées, ouverture d'un dialogue citoyen raisonné entre autorités publiques et associations non mandatées par l'État, portant sous l'ouverture et la localisation de points de distribution de tous les biens nécessaires au maintien de la santé des personnes exilées. La conscience humaine s'habitue à tout, même à l'intolérable. Cette grève de la faim vise à réveiller les intelligences et à faire entendre à nouveau le caractère scandaleux et proprement inimaginable dans un pays comme la France en 2021 de la condition à laquelle sont réduits volontairement les personnes exilées par la puissance publique. Voilà, donc la pétition est à signer sur change.org. Elle a été contresignée hier par Amnesty International et elle est contresignée par plein d'autres ONG de défense des droits humains. Donc surtout, il faut faire pression effectivement, surtout que M. Macron apparemment a dit aujourd'hui qu'il allait s'en occuper. Voilà, on rend l'antenne, on laisse la place au laboratoire, notre ami Trembolo qui vient d'arriver. Donc on lui laisse l'antenne et on se retrouve donc on vous a dit, j'ai déjà perdu mon papier, c'était quand la prochaine émission? Voilà, je vais vous retrouver le mardi 16 novembre en direct sur l'antenne de Principe Actif. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je croyais que Clarisse ne voulait plus vous dire bonsoir, je viens de lui faire signe. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours.
J'étais en train de dire que c'était pas dans 15 jours, c'est dans 3 semaines. Oui. Rigolo.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.